La plupart des gens riches ou célèbres croient aussi être un peu plus égaux que les autres. C'est ce qui explique leur désir qu'on se souvienne d'eux une fois qu'ils auront quitté ce bas monde. C'est pour cette raison qu'en leur mémoire, on trouve leur nom sur un bâtiment ou sur une liste de donateurs généreux. Jadis, les gens importants se faisaient construire une mausolée de marbre suffisamment tape à l'œil pour impressionner les passants. La vanité humaine est étonnante. Je continue à lire dans le chapitre 22 du livre d'Ésaïe. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va-t'en trouver cet intendant Shebna, le maître du palais. Dis-lui, qu'as-tu ici comme propriété ou comme parenté pour que tu te creuses un tombeau? Oui, que tu te creuses un tombeau en ce lieu-ci sur les hauteurs et que dans le roc tu te tailles une demeure. Voici que l'Éternel va te lancer au loin d'un geste de la main. Il va t'empaqueter et t'envoyer rouler comme une balle vers une vaste plaine. C'est là que tu mourras, c'est là que s'en iront les chars qui font ta gloire, ô toi, qui est la honte du palais de ton maître. Je te renverrai de ton poste, oui, je t'arracherai à ta situation. Versets 15 à 19. Ce Shebna est un personnage funeste, un non-israélite et un parvenu. Il y a tout à croire que le roi idolâtre Akaz l'avait ramené de Syrie et élevé au rang d'intendant du palais, c'est-à-dire premier ministre. Cependant, sous le règne d'Ézéchias, au moment de l'invasion de Juda par la Syrie, Shebna n'est plus que simple secrétaire. C'est sans doute ce brave roi qui l'a fait déchoir de son perchoir. Arrogant, Shebna soignait sa petite personne aux dépens du royaume. Tiens, ça me fait penser que dans les rangs de ceux qui nous gouvernent, bon, ne soyons pas mauvaise langue. Au regard de ce qui est dit de Shebna, il semble évident que son but dans la vie était d'être reconnu. Mais ce qui lui vaut la colère de Dieu est d'avoir essayé de préserver son nom en se faisant construire un tombeau à côté de ceux des rois issus de la dynastie de David. Ésaïe annonce donc que son châtiment sera de mourir en exil. Je finis le chapitre 22. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai appel à mon serviteur Éliakim, le fils de Hilkia. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je lui remettrai ton pouvoir politique, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et le royaume de Juda. Versets 20 et 21. L'expression « mon serviteur » indique qu'Éliakim est fidèle à l'Éternel et chargé d'une mission. La désignation Père est un titre politique qui dénote un souci pour le bien-être du peuple. Ce sera aussi un des titres du Messie. Je continue. Je le chargerai donc de la clé du royaume de David, et quand il ouvrira, nul ne refermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Verset 22. La clé représente le pouvoir et l'autorité. Sans la permission d'Éliakim, nul n'entrera dans la maison royale ou n'occupera un poste quelconque. Par la fonction qu'il exerce, cet homme est présenté comme une préfiguration du Christ. En effet, parlant de lui-même, Jésus a dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » J'ai été mort, et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Fin de citation. Ici-bas, rien n'est plus réconfortant que de placer sa confiance en celui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer n'importe quelle porte. Je continue le texte. Oui, je le planterai fermement comme un clou dans un endroit solide, comme un trône glorieux pour la famille de son père. Toute la gloire de sa parenté y sera suspendue, les rameaux, les brindilles et tous les ustensiles depuis les bols et jusqu'aux jarres. Versets 23 et 24. Retour sur terre. Comme un fauteuil luxueux fait la gloire, le prestige d'un appartement, Éliakim sera l'honneur de sa famille. Toute sa parenté, petits et grands, se suspendra à lui pour tirer des avantages de sa position. Je finis le chapitre 22. « En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le clou planté dans un endroit solide cédera, cassera et tombera, et tout le fardeau qu'il portait se brisera. L'Éternel a parlé. » Verset 25. Ça finit mal. Ce clou, fermement planté, symbolise la solidité du royaume de David, et pourtant, il sera arraché. Ésaïe prophétise ici la fin de Jérusalem détruite par les Babyloniens. Jusqu'ici, le prophète a sanctionné Babylone, les Moabites, les Syriens, l'Égypte, l'ancienne Éthiopie, les Mèdes et les Perses, les Édomites, Juda, Jérusalem et Chebna. Par ses jugements, Dieu condamne en vrac tout ce qui est mauvais dans l'homme, l'idolâtrie, les fausses religions, l'apostasie, le formalisme, les compromis foireux, la mondanité, le désir de paraître, le goût du luxe, la cupidité et la soif de posséder, et les manigances politiques. Maintenant, c'est au tour de Tyr. Les Phéniciens étaient des Cananéens qui s'établirent en bordure de la Méditerranée un peu après 3000 ans avant Jésus-Christ. Leur pays faisait 320 km de long et de 8 à 25 de large. Il allait de la frontière nord du Liban actuel jusqu'au mont Carmel, au-dessus du port de Haïfa en Israël. La Phénicie était constituée d'un ensemble de villes-états dont les deux principaux étaient Sidon et Tyr, qui se trouvent dans le sud Liban, à 56 km au nord du mont Carmel. Tyr avait deux parties, l'ancienne ville située sur le continent et la nouvelle bâtie sur une petite île à un peu moins d'un kilomètre de la côte et qui possédait deux ports. Tyr était célèbre dans l'Antiquité pour son industrie métallurgique et la fabrication du verre. Son roi Hiram était ami de Salomon et lui avait fourni du bois pour la construction du temple ainsi que des marins. Navigateurs chevronnés, les Phéniciens devaient leur prospérité au commerce dont ils détenaient le monopole. Ils furent les premiers à dépasser le détroit de Gibraltar et établir des colonies en Asie mineure, en Grèce, en Crète, en Rhodes et à Chypre. Ils fondèrent Carthage dans le golfe de Tunis, qui devint leur principale colonie, et Tarsis au sud de l'Espagne, en Andalousie, où ils exploitaient des minerais. Ils cherchaient l'étain au sud-ouest de l'Angleterre, dans la région de Cornwall, où il se trouvait en abondance. D'ailleurs, Britannia, même racine que britannique, est le mot anglais pour un alliage d'étain. Je commence à lire le chapitre 23 d'Ésaïe. « Menace sur Tyr, hurlez, navire au long cours, car votre port d'attache a été dévasté, ses maisons sont détruites. C'est au retour de Chypre qu'ils en ont reçu la nouvelle. Restez muets, habitants de la côte, vous, marchands de Sidon, dont les commis sillonnent de profondes mers. » Versets 1 et 2. Chypre était à 250 km de la côte et le second port d'attache de Tyr. Dans l'Ancien Testament, Sidon, situé à 40 km au nord de Tyr, est appelée la grande ville parce qu'elle fut établie en premier puis colonisa Tyr. Ces deux villes furent forcées de payer un tribut aux Assyriens, mais à la mort de Sennachérib, elles se rebellèrent. Sidon fut alors écrasé et pillé, et son successeur fit le blocus de Tyr pendant 5 ans, mais sans grand résultat, sinon des pertes considérables dans ses rangs. Ce n'est donc pas de l'Assyrie qu'il s'agit dans la prophétie d'Ésaïe. À la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, Ézéchiel, un prophète qui précéda Ésaïe, prononça une série de jugements contre Tyr. Je résume ce passage. « Je m'en prends à toi, Tyr. Je m'en vais soulever contre toi des nations, des peuples en grand nombre. Comme la mer soulève ses vagues en furie, Ils détruiront tes murs, ô Tyr, et abattront tes tours. Je raclerai pour emporter loin d'elles la poussière du sol, et je ne laisserai qu'un rocher dénudé. Voici qu'elle sera au milieu de la mer, un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les faire sécher. J'amène contre Tyr Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il passera au fil de l'épée les villes de ton territoire. Ils prendront tes richesses et pilleront tes biens, ils abattront tes murs et ils démoliront tes maisons luxueuses en jetant dans la mer tes boiseries, tes pierres et jusqu'à ta poussière. Et je ferai de toi un rocher dénudé, un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les faire sécher. Tu ne seras jamais, jamais plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Fin de citation. 17 ans après cette prophétie, Nabuchodonosor envahit la Phénicie, détruisant tout sur son passage, et commence un siège de Tyr qui dura 13 ans. Beaucoup d'habitants réussirent à s'enfuir, soit dans les colonies, soit dans la forteresse insulaire qui était entourée d'immenses murs en bord de mer. Mais après la chute de la ville continentale, ils capitulèrent et furent soumis à Babylone. 33 ans plus tard, toute la Phénicie passa sous contrôle perse. Puis ce fut Alexandre le Grand qui fit le siège de la cité insulaire parce qu'il contrôlait la mer. Pour la prendre, il fit construire une digue de 60 mètres de large afin de relier le continent à l'îlot. Pour ce faire, il prit les pierres, la poterie et tout ce qu'il pouvait trouver des ruines de l'ancienne ville en accord avec la prophétie « Je raclerai pour emporter loin d'elle la poussière du sol et je ne laisserai qu'un rocher dénudé. » Après bien des péripéties et la constitution d'une flotte de guerre grâce à l'aide des Sidoniens et 7 mois de siège, les Grecs réussirent à conquérir la cité insulaire qui était devenue une presqu'île. Cependant, elle ne fut pas entièrement détruite. 18 ans plus tard, Antigone, un des généraux d'Alexandre, en fit à nouveau le siège et la prit au bout de 15 mois, mais elle fut encore reconstruite, et en 1047 de notre ère. Tyr est décrite comme très prospère. Finalement, les musulmans la prirent, puis ce furent les Turcs, les croisés et les Vénitiens. Mais en 1291, les Mamelouks Égyptiens la réduisirent littéralement en poussière. C'est ainsi que la ville principale et l'îlot furent transformés en un terrain plat. Aujourd'hui, il existe encore les ruines d'une ancienne basilique, tout le reste est dans la mer. Le site de l'ancienne Tyr est excellent pour y reconstruire la ville car il abonde en sources d'eau potable, mais l'entreprise n'a jamais été tentée. Sa grandeur légendaire a disparu conformément à la prophétie d'Ésaïe. À l'extrémité de la presqu'île se trouve actuellement la petite ville de Sûr où les pêcheurs étendent leurs filets. Curieusement, aucun prophète n'a prédit la disparition de Sidon, qui fut détruite à plusieurs reprises, mais chaque fois reconstruite. Aujourd'hui, c'est un port pétrolier prospère. Je continue le texte d'Ésaïe. Le blé semé le long du Nil, les moissons qui croissaient sur les rives du fleuve étaient son revenu, elle était devenue le marché des nations. Sois confuse, Sidon, car la mer a parlé, le refuge des mers dit, je n'ai pas eu de douleur, je n'ai pas accouché, je n'ai pas élevé de jeunes gens, je n'ai pas élevé de jeunes filles. Lorsque l'Égypte en sera informée et lorsqu'elle apprendra le sort de Tyr, elle sera saisie d'angoisse. Versets 3 à 5. L'Égypte était le grenier du monde antique. À la nouvelle de la chute de Tyr, les Égyptiens sont terrifiés parce que non seulement ils ne pourront plus écouler leur blé, mais ils perdent aussi leur allié qui pour eux était un rempart contre les invasions venant du nord. Tyr est totalement détruite au point où la ville personnifiée appelée Refuge des mers dit que c'est comme si elle n'avait jamais eu d'habitants. Quant à Sidon, elle est décrite humiliée à cause de la disparition de sa principale colonie. Je continue. Fuyez jusqu'à Tarsis, poussez des hurlements, habitants des régions côtières, est-ce bien là votre cité joyeuse et dont les origines se perdent dans le temps? Est-ce bien là la ville qui s'en allait au loin fonder des colonies, qui donc a décrété tout cela contre Tyr, qui distribuait des couronnes, elle dont les marchands vivaient comme des princes et dont les commerçants étaient considérés comme les grands de cette terre? Le Seigneur des armées célestes a décrété cela afin que soit flétri l'orgueil de tout ce qu'on honore, pour que tous les grands de la terre soient rendus méprisables. Versets 6 à 9. Chaque fois que Tyr était attaqué, les habitants cherchaient refuge dans leur possession. Lorsqu'Alexandre le Grand l'a assiégé, les vieillards, les femmes et les enfants furent envoyés à Carthage. Les conquêtes tyriennes étaient dirigées par les princes qui dépendaient de la métropole. La Grande-Bretagne a fait la même chose avec ses colonies. L'orgueil de Tyr était lié à sa puissance économique, à sa prospérité et à son prestige. C'est cette attitude arrogante qui fut la cause de son jugement par Dieu. Je continue. « Va, population de Tarsis, et cultive ton sol comme les Égyptiens dans la vallée du Nil. Le port n'existe plus, car Dieu a étendu la main contre la mer. Il a fait trembler les royaumes. Oui, l'Éternel a donné l'ordre de détruire les forteresses des Phéniciens. Il a dit, population de Sidon, vierge déshonorée, cesse de te réjouir. Debout, mets-toi en route, va t'établir à Chypre, mais même là, il n'y aura aucun repos pour toi. » Versets 10 à 12. Comme les habitants de Tyr ont dû s'enfuir à Tarsis, ceux de Sidon vont se rendre à Chypre. Leur roi s'y était réfugié lors de l'invasion par l'empereur Sennachérib de Sidon. Mais maintenant que la Phénicie est conquise, ces colonies qui supportaient impatiemment le joug de la métropole retrouvent leur indépendance. Non seulement ils vont pouvoir exploiter eux-mêmes leurs ressources, mais ils refusent d'accueillir leurs anciens maîtres. Je continue. Vois les Chaldéens, qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays. Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, ils les mettent en ruine. Hurlez, navires au long cours, car votre forteresse est dévastée. Versets 13 et 14. Au temps d'Ésaïe, la Chaldée était divisée en plusieurs états soumis aux Assyriens. Mais le prophète voit surgir et nomme ici le mystérieux ennemi dont il a parlé au chapitre précédent et qui menacera la Palestine. En 612 avant Jésus-Christ, les Chaldéens, alliés aux Mèdes et aux Scythes, prirent d'assaut et détruisirent Ninive, capitale de l'Assyrie. La ville a complètement disparu et ses ruines servent de repère aux bêtes sauvages. C'est ainsi que l'Empire babylonien remplaça l'Assyrie. Comme j'ai dit, c'est Nabuchodonosor qui a détruit la partie continentale de Tyr alors que l'îlot fortifié a capitulé. Je finis le chapitre 23. Et il arrivera en ce jour-là que la ville de Tyr sombrera dans l'oubli pour 70 ans, aussi longtemps que dure la vie d'un roi. Ce délai écoulé, il en sera de Tyr comme de cette courtisane dont parle la chanson. Va et prends une lyre, fais le tour de la ville, courtisane oubliée, tâche de bien jouer et multiplie tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Et il arrivera qu'en 70 ans se seront écoulés que l'Éternel interviendra pour Tyr qui retournera à ses gains et recommencera à se prostituer à tous les royaumes sur la surface de la terre. Mais ses gains, ses profits seront tous consacrés à l'Éternel. Au lieu d'être amassés, d'être mis en réserve, ces gains appartiendront aux hommes qui demeurent en présence de l'Éternel pour qu'ils puissent manger à satiété et s'habiller de vêtements splendides. Versets 15 à 18. 70 est un nombre arrondi qui correspond en gros à la durée de vie maximum d'un roi, c'est-à-dire de quelqu'un qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour soigner sa personne. La domination babylonienne dura à peu près 70 ans. Ici, il faut compter à partir de 572 avant Jésus-Christ quand Nabuchodonosor a pris la ville de Tyr, jusqu'en 500 quand les Perses la rétablirent. Alors, son activité économique reprit de plus belle. Mais ce commerce est très mal vu par Ésaïe. Tout comme dans l'Antiquité, les filles de joie chantaient pour attirer l'attention des passants, Tyr utilise tous les moyens pour s'enrichir. C'est comme dans les pays capitalistes et ultra-libéraux où faire du fric est de loin la valeur principale. Selon les Écritures, c'est de l'idolâtrie pure et dure et une forme de prostitution. Cependant, cette prospérité retrouvée de Tyr profitera aux Israélites. Effectivement, dans le livre d'Esdras de l'Ancien Testament, on lit que les Phéniciens ont contribué à la construction du nouveau temple en amenant gratuitement du Liban à Jaffa les bois nécessaires. Nous arrivons maintenant au chapitre 24 qui, avec les trois suivants, sont quelquefois appelés la grande apocalypse d'Ésaïe. Dans ces chapitres, la perspective du prophète s'élargit considérablement puisque ses oracles de jugement et de salut concernent la terre entière. Il va décrire la crise finale de l'histoire suite à laquelle Israël et les élus d'entre toutes les nations entreront dans la gloire du règne de Jésus-Christ. Les jugements du chapitre 24 sont à mettre en parallèle avec la tribulation décrite dans l'Apocalypse de Jean. Je commence à le lire. Oui, l'Éternel va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. Un même sort atteint le prêtre et le commun du peuple, le maître et son esclave, la dame et sa servante, vendeur et acheteur, emprunteur et prêteur, débiteur, créancier. La terre sera dévastée, totalement pillée de fond en comble, car l'Éternel lui-même a prononcé cette sentence. Versets 1 à 3. Ésaïe généralise la destruction annoncée dans les chapitres précédents et l'applique au monde entier et à toutes les classes d'individus. Aucune exception, tous vont subir le châtiment divin. De plus, c'est un décret donc il est certain qu'il sera appliqué. Je continue. La terre se dessèche et se dégrade, le monde dépérit et se dégrade, les gens haut placés de la terre dépérissent aussi. La terre a été profanée par ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les commandements et violé l'alliance éternelle. Versets 4 et 5. Après avoir annoncé le jugement à venir, le prophète en décrit les effets comme s'il avait déjà eu lieu. L'expression « alliance éternelle » apparaît la première fois après le déluge et est symbolisée par l'arc-en-ciel. Cette alliance consiste pour l'homme à se soumettre et à obéir à son Créateur. On connaît la suite et maintenant Dieu juge le monde entier. Je continue. À cause de cela, la terre se consume par la malédiction, ceux qui l'habitent en portent la condamnation, et c'est pourquoi ils se consument, il n'en subsiste qu'un petit nombre. Verset 6. La colère de Dieu est un feu dévorant. Cette image est fréquente chez Ésaïe. L'Éternel a déjà jugé toute la terre, et il le fera encore. Je résume les paroles de l'apôtre Pierre. Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés pour être livrés au feu. Fin de citation. Je sais bien que ces paroles sont désagréables à entendre, mais entre vous et moi, ça ne sert à rien de se voiler la face. Ceux qui n'acceptent pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ seront jugés.